Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 22 juillet 2021. D'après mes calculs, nous sommes actuellement jeudi matin. Toujours d'après mes calculs, la dernière fois que nous avons été angoissés sur l'avenir et que cette angoisse a pesé sur le marché, c'était très précisément il y a 48 heures. Il y a 48 heures de cela, j'étais en train d'écrire une chronique qui laissait à penser que la fin était proche, que le crash était à portée de main, que la panique allait nous saisir à la gorge, alors que le variant Delta était en train de nous attaquer violemment de toutes parts, et que nos libertés, nos espoirs de voyage, tout comme la croissance de l'économie, allaient être mis à mal. Mais c'était il y a 48 heures. C'était donc il y a un an, il y a un siècle, une éternité, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était mardi matin, sauf que depuis, plein, mais alors plein de choses ont changé la face du monde et de l'économie pour les 2000 ans à venir au moins. Si nous étions l'équipage du vaisseau spatial d'un milliardaire d'une autre planète qui aurait décidé de venir voir la Terre pour son propre plaisir et montrer qu'il a plus d'argent qu'un autre milliardaire de sa planète d'origine, et qu'en arrivant, on aurait observé rapidement les bourses mondiales, on se serait sûrement dit qu'au vu du rebond de ces deux dernières séances, il a dû se passer un truc énorme. Je sais pas moi, que l'on a trouvé un nouveau vaccin tout exprès pour le variant Delta et que sa progression a été stoppée net, ou que le président de la grande nation qui a inventé le foot américain vient d'annoncer un nouveau stimulus de 20 000 milliards de dollars appelé stimulus Delta, ou même mieux, que le patron de la réserve fédérale vient de jurer sur la tête de ses enfants et sur celle de Brigitte Macron que l'inflation sera transitoire. Mais rien de tout cela n'a été annoncé, même pas une rumeur, mis à part Christine Lagarde qui a déclaré que les taux allaient rester bas et que le programme de soutien économique pourrait rester en place en tous les cas jusqu'en 2022 ou jusqu'à que l'inflation atteigne 2%, ce qui devrait se produire autour de l'an 2350 au vu de la croissance en Europe. Mis à part cette déclaration qu'elle fait toutes les 24 heures après s'être brossé les dents, il ne s'est rien passé. Ou plutôt si. Les sociétés américaines publient des chiffres exceptionnellement bons et ça c'est une bonne nouvelle qui mérite que l'on déclenche un nouveau bull market rien que pour ça. Enfin, jusqu'à que l'on se réveille avec la peur de l'inflation qui ne soit pas transitoire et que l'on se souvienne du variant Delta et que lui, il est toujours en pleine bourre. Mais ça sera dans 48 heures. Autrement dit, dans un an, dans un siècle, dans une éternité, à un moment que les 20 ans, les plus de 20 ans diront que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc, hier et avant-hier, les marchés du monde entier ont rebondi massivement parce que les gens se sont rendus compte que les chiffres du trimestre étaient et allaient être excellents et que du coup, ça remet en perspective le variant Delta. Oui, parce que ça représente quoi ? Quelques mois de confinement, des restrictions de voyage sans limite et une ingérence accrue des gouvernements dans nos vies privées, alors que de l'autre côté, on trouve parfaitement jouissif les chiffres d'une boîte comme Coca-Cola dans une économie qui cartonne dans une ambiance de fête nationale, ou encore on explose de joie parce que Johnson & Johnson a battu les attentes des analystes et augmente sa guidance pour le reste de l'année. Oui, je sais, toutes ces problématiques liées au Covid ne sont que des intérêts totaux lorsque l'on voit que les sociétés qui font les indices cartonnent et que leurs annonces prouvent que l'économie va, que le client consomme, masqué ou pas masqué, vacciné ou pas vacciné. Et ça, c'est quand même le plus important. C'est le message que nous envoient les bourses mondiales pour justifier leur hausse et trouver parfaitement normal qu'après avoir prôné la terreur il y a 48 heures, il soit temps de revenir à la réalité économique et en récitant la prière de l'actionnaire, plus connu sous le nom de notre Nasdaq qui est aux cieux. Alors après, si l'on remet les cartes sur la table et que l'on essaie de se souvenir ce que l'on disait il y a une semaine, on pourrait peut-être se rendre compte que l'on marche sur la tête et que ce marché est soit en vacances, soit complètement débile. Alors je dois vous avouer que j'ai une petite préférence pour la seconde théorie. Oui, non, au risque d'être un peu vieux jeu, je crois me rappeler qu'il y a moins d'une semaine de cela, tout en étant conscient qu'une semaine complète en termes boursiers, cela représente la différence entre nous et la disparition des dinosaures en année humaine, mais il y a une semaine de cela, on nous disait que les sociétés avaient vécu un trimestre exceptionnel et que les attentes des analystes étaient toutes, mais alors toutes, bien trop basses pour refléter la réalité. Deux jours après cette annonce, étayée par toutes les analyses fondamentales possibles, la psychologie de marché nous disait que oui, en effet, c'était trop bas, mais que comme on savait que c'était trop bas, on allait s'attendre à des chiffres de folie, et que si c'était pas des chiffres de folie, ça serait forcément une déception, et que l'on changerait pas le niveau des attentes parce que c'était trop tard, et qu'en plus, au cas où les chiffres n'étaient pas si bons que ça, on aura eu raison quand même. En stratégie financière, ça s'appelle « courir son cul ». Tout ça pour vous dire que ça fait des semaines que l'on sait que les attentes sont trop basses et que cela va ou allait provoquer des surprises à la hausse. Sauf qu'entre deux, il y a eu le variant Delta. À prononcer en agitant les bras au ciel et en ajoutant « ouh » le « ouh » qui fait peur à la fin. Et depuis que la mention du variant Delta, on a fait un reset de nos mémoires, ce qui fait que depuis 48 heures, on trouve super que les sociétés publient des chiffres meilleurs que les attentes, ce qui nous permet de ne pas trop flipper à chaque mention du variant Delta, et de ne pas penser au fait que les chiffres du trimestre qui sont publiés actuellement sont les chiffres d'un trimestre où le variant Delta n'était pas encore aussi fréquent que cela sous nos contrées et que là, on célèbre le passé sans penser que lundi soir, à la clôture de New York, on s'inquiétait du futur. Bref, hier on est monté sur les bourses mondiales et je crains bien qu'en observant la réflexion qui nous occupe actuellement, vu le niveau, on a de bonnes chances de pouvoir participer à la prochaine saison des Marseillais à Wall Street. Pour le reste, je vais pas vous faire un dessin, l'Asie est en hausse grâce aux chiffres du trimestre des sociétés américaines qui sont trop cool. Le pétrole remonte au-dessus des 70$ parce qu'il est la représentation physique de la demande, de la consommation et de la bonne santé économique. Et l'or repasse sous les 1800. Oui, parce que sincèrement, qui voudrait avoir des lingots d'or pour se protéger d'un éventuel crash alors que tout le monde sait que dorénavant, une correction massive, c'est 3% de baisse, ce qui fait que proportionnellement, on peut dire que l'on vit un crash boursier à moins 5, moins 6%. Tout ce que je retiens, c'est que la bourse, ça devient presque trop facile. Et c'est encore plus facile de justifier la hausse que la baisse. Bon, c'est pas aussi facile que dans les cryptos, où il nous suffit que notre maître à tous, le dieu vivant Elon Musk, vienne parler pour faire remonter le secteur. Hier, il lui aura encore fallu moins de 12 secondes pour faire remonter l'Ethereum de 10% parce qu'il a annoncé qu'il en avait. Ah bon ? Personnellement, je me demande ce que ferait le marché si j'annonçais que j'ai acheté des cryptos. Oui, ok, il serait mort de rire, ou alors il s'en foutrait complètement. Et là aussi, je crois que la seconde théorie me plaît nettement mieux. Pour ce qui est des news du jour, je crois que l'on touche un plus bas historique de ce côté. Le FT nous fait une théorie sur la course spatiale des milliardaires, dont personnellement je me fous comme de ma première paire de tongs. CNBC n'arrive plus à écrire un article sans que le mot Tesla ou Elon Musk soit inclus dedans. Et puis des gourous qui sont faux deux fois sur trois, comme Jim Cramer, estiment que la correction du S&P est terminée et que l'on peut viser à nouveau les plus hauts de tous les temps. Bah, c'est vrai qu'il reste que 25 points à franchir au S&P 500 pour que cela se fasse. On sent que la prise de position est vraiment courageuse. Hein. Il suffirait que cet après-midi, des boîtes comme AT&T, Intel, Snap ou American Airlines fassent mieux que les attentes. Et tout en sachant que pour faire pire, il a fallu s'attacher une jambe, voire les deux. Et l'indice devrait battre à nouveau des records historiques. C'est marrant parce que il y a quand même une chose assez particulière, c'est que je suis bullish depuis que je suis né, je suis même du signe du taureau, ça fait 30 ans que je fais de la finance et 30 ans que je suis définitivement bullish. Je devrais donc me réjouir de ce qui se passe, sauf que là depuis quelques temps je trouve que le marché est complètement con. Et pourtant, j'ai vécu la crise des subprimes. Alors autant vous dire que des marchés débiles, j'en ai vu. Mais là, on arrive à des niveaux de stupidité qui auraient conforté Albert Einstein quand il comparait l'infini de l'univers et de la stupidité humaine. Pour le moment, les futurs sont en légère hausse, les cryptos sont en hausse, tout est en hausse, sauf l'or. Je crois d'ailleurs que je vais aller méditer au bord de la piscine et je vous retrouve demain, histoire de voir quelle est la justification fondamentale qui justifiera les plus hauts de tous les temps, à moins que le variant Delta fasse son retour dans l'esprit torturé de Mr. Market. Bonne journée à tous et à demain.